Ce matin, je voudrais vous inviter à commencer une nouvelle, entre guillemets, série de messages pour les dimanches qui me seront attribués dans les prochains mois. On va s'intéresser à une période précise de l'histoire d'Israël, qu'on trouve donc dans l'Ancien Testament, et dans cette période, au ministère d'un homme en particulier, le prophète Élisée. Alors, bien entendu, en étudiant cette période et le ministère d'un homme, ce que je l'espère va retenir avant tout notre attention, c'est de voir l'œuvre de Dieu, de voir comment Dieu se révèle dans cette période particulière de l'histoire biblique, ce que ça nous dit de lui et quel lien nous pouvons établir avec notre vie, avec Dieu. Et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles au deuxième livre des Rois, au chapitre 3. Pour ceux qui voudraient suivre dans les Bibles bleues, c'est la page 359. Donc second livre des Rois, chapitre 3. Et je lirai le chapitre en entier. Une lecture donc qui nous prendra quelques petites minutes, mais pas bien longtemps. Joram, fils d'Akab, devint roi sur Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui déplaisait au Seigneur, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il supprima la pierre levée du Baal que son père avait faite, mais il s'attacha au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il ne s'en écarta pas. Mécha, roi de Moab, était éleveur. Il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 jeunes béliers et de 100 000 béliers adultes avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Marcheras-tu avec moi au combat contre Moab ?» Josaphat répondit, « J'irai. Il en sera pour moi comme pour toi, pour mon peuple, comme pour ton peuple, pour mes chevaux, comme pour tes chevaux. » Il dit encore, « Par quel chemin monterons-nous ? » Joram dit, « Par le chemin du désert d'Édom. » Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Quand ils eurent marché 7 jours, par une route détournée, il n'y eut plus d'eau pour la troupe, ni pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Ah, le Seigneur a appelé ses 3 rois pour les livrer à Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète du Seigneur par qui nous puissions consulter le Seigneur ? » Parmi les gens de la cour du roi d'Israël, quelqu'un répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Josaphat dit, « La parole du Seigneur est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'ai-je à faire avec toi ? Va trouver les prophètes de ton père et les prophètes de ta mère. » Alors le roi d'Israël lui dit, « Non, car le Seigneur a convoqué ses 3 rois pour les livrer à Moab. » Élisée dit, « Par la vie du Seigneur des armées, au service duquel je me tiens, si je n'avais de la considération pour Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderais même pas. Maintenant, amenez-moi un musicien. » Comme le musicien jouait, la main du Seigneur fut sur Élisée. Il dit, « Ainsi parle le Seigneur, creusez dans cette oued, faites des fosses et encore des fosses, car ainsi parle le Seigneur, vous ne verrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie, mais cette oued se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bêtes. Mais cela est peu de choses aux yeux du Seigneur. Il vous livrera Moab. Vous mettrez à mal toutes les villes fortes et toutes les villes d'importance. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous causerez du dommage avec des pierres à toutes les meilleures parcelles. » Au matin, au moment de la présentation de l'offrande, l'eau arriva du côté d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois venaient leur faire la guerre, on mobilisa tous ceux qui étaient en âge de porter les armes et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, « C'est du sang. » Les rois ont tiré l'épée entre eux et ils se sont abattus les uns les autres. « Maintenant, Moabites, au butin !» Ils arrivèrent au camp d'Israël, mais Israël se leva et battit Moab, qui dut fuir pour échapper. Ils allèrent et bâtirent Moab. Ils rasèrent les villes et jetèrent chacun sa pierre dans toutes les meilleures parcelles et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources et abattirent tous les bons arbres. Finalement, il ne resta plus que les pierres de Kir Hareset. Les hommes armés de fronde l'encerclèrent et la mirent à mal. Le roi de Moab, voyant que le combat dépassait ses forces, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils n'y parvinrent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait devenir roi à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Une grande colère s'abattit alors sur les Israélites, qu'ils s'éloignèrent de lui et retournèrent dans leur pays. Un texte dur, en particulier à la fin. Nous y reviendrons bien sûr, et je vais procéder en trois temps, en parlant d'abord d'un contexte lamentable, ensuite d'une spiritualité sélective, et enfin d'un dénouement très inattendu. Un contexte lamentable d'abord. Alors imaginez qu'à la rue de Sèvres, on décide un jour d'ouvrir la porte à tous les cultes, à toutes les pratiques religieuses qui puissent exister, par esprit de tolérance. Donc on pourrait avoir des tapis orientés vers la Mecque dans la salle bleue, une séance de lévitation dans la salle du conseil, peut-être des bar mitzvahs, peut-être pour les libres penseurs, un atelier philosophie dans le jardin d'enfants, je ne sais pas. Imaginez que nous agissions ainsi. Je pense, et heureusement, que nous perdrions la quasi-totalité de nos membres, même si cela, en fait, nous rendrait plus dans l'air du temps. Mais je pense que, heureusement, je l'ai dit, pour la grande majorité d'entre nous, sinon la totalité, qui sommes chrétiens et membres de cette Église, nous considérerions là qu'il s'agirait, en fait, de tourner le dos à celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi ». Ce serait un renoncement à ce qui est notre vocation propre d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Le cœur du message chrétien, c'est que le Dieu créateur, le Dieu éternel, s'est révélé à l'humanité dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'il a choisi de se révéler. C'est en Christ donc et en lui seul que se trouve notre espérance. Alors cette bonne nouvelle, cet évangile, est universel dans le sens où il s'adresse à tous les êtres humains, sans distinction. Tous sont concernés pleinement par cet évangile. En revanche, c'est un message exclusif au sens où c'est en Christ que Dieu a choisi de se révéler et de sauver les hommes. Ce n'est pas une palette d'options qu'il nous donne et puis Jésus en fait partie. C'est ainsi qu'il s'est révélé. Et il faut le reconnaître, ce message passe de plus en plus difficilement. Cette exclusivité de l'évangile est profondément à contre-courant de notre culture contemporaine qui préfère croire en tout ou croire en rien, ce qui revient en fait à peu près à la même chose. Ce qui peut nous étonner, c'est que cette atmosphère relativiste, syncrétiste, a pas mal de points communs avec l'atmosphère qui régnait en Israël au 9e siècle avant Jésus-Christ. Ça peut nous surprendre, mais il y a pas mal de points communs. Et c'est ce contexte que nous allons essayer de resituer un petit peu dans ce premier point. Depuis quelques générations, au moment où nous trouvons ce récit, le peuple avec lequel Dieu est entré en alliance s'est divisé en deux royaumes, deux pays. Le royaume de Juda au sud, avec Jérusalem pour capitale. Le royaume d'Israël, appelé parfois Éphraïm, au nord, avec Samarie pour capitale. Un même peuple à la base, mais deux pays. Si on veut un exemple un peu analogue, beaucoup plus proche de nous dans l'histoire, on peut penser à l'Allemagne, qui a longtemps été divisée entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Un seul peuple, mais deux pays. Heureusement, ce n'est plus le cas maintenant. Donc à cette division géopolitique s'ajoute une dilution progressive du culte rendu à l'Éternel, le Dieu unique et tout-puissant qui s'est révélé à Israël. Le temps a passé depuis la délivrance miraculeuse de l'Égypte, où Israël était réduit à l'esclavage, depuis l'installation dans la terre promise. Le temps a passé même depuis la construction du temple au temps de Salomon. Tout cela paraît assez lointain, sans doute, pour pas mal d'Israélites. Et il faut reconnaître aussi que tous les peuples avoisinants, sans exception, adorent pour leur part une multitude de divinités, des cultes polythéistes, des croyances plurielles, donc, qui s'expriment envers des divinités qu'on peut contrôler, littéralement, qu'on fabrique à la main, et puis ensuite qu'on peut facilement influencer, modeler à sa manière. Des dieux, en fait, des divinités qui correspondent à l'expression des sentiments et des croyances des hommes. C'est ça le cœur de l'idolâtrie. Des dieux que nous faisons à notre image, plutôt que de reconnaître que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et des dieux, par conséquent, qui ne nous demandent rien ou pas grand-chose, peut-être quelques actes de religiosité qui nous permettent de penser qu'on est dans les clous au niveau spirituel si on fait telle ou telle chose. Bref, des divinités beaucoup plus gérables qu'un Dieu personnel et transcendant, qui nous a tout donné, à qui nous devons tout et qui, lui, ne nous doit rien. Mais tout ce qu'il nous donne est par grâce. Le récit que j'ai lu il y a un instant nous amène aux alentours de l'an 850 avant Jésus-Christ, donc au 9e siècle avant Jésus-Christ, et à ce moment, au moment où Israël, et là je parle du royaume du Nord particulièrement, vient de sortir d'une période particulièrement sombre. 2 ans avant le début de ce récit, le roi Akab, roi tristement célèbre, est mort. Akab s'est illustré par l'idolâtrie généralisée, la violence et la cruauté. C'était le mari de Jézabel et il faisait bien la paire avec sa femme. L'injustice et la corruption. Après la mort d'Akab, c'est son fils Akazia qui va brièvement lui succéder, mais tel père, tel fils. Le fils n'est pas mieux. La fin du premier livre des rois nous montre que lui aussi adore les idoles, lui aussi adore Baal, l'une des idoles en vogue à l'époque. Et il faut bien comprendre que depuis l'alliance conclue entre l'Éternel et David, la vocation des rois d'Israël était non seulement d'être des responsables politiques, mais aussi d'être des responsables spirituels du peuple, d'être des modèles de piété, de confiance en Dieu. Or, Akab et son fils Akazia, non seulement n'ont pas été obéissants à cette vocation, mais ils ont même fait activement le contraire, en faisant la promotion de cultes étrangers à l'adoration de l'Éternel. Alors, on peut être surpris parfois, en lisant ces textes de l'Ancien Testament, qui nous parlent de tant d'idolâtrie généralisée. Et on peut se demander pourquoi l'Israël antique n'a pas appris de ces expériences malheureuses répétées. On voit bien que ça finit toujours par se terminer mal lorsqu'il se tourne vers les idoles. Pourquoi s'obstiner à préférer les idoles à la révélation du Dieu véritable? Mais n'est-ce pas notre tendance à nous aussi, de façon plus subtile souvent, de préférer trouver notre réconfort et notre espérance dans des choses que nous pouvons contrôler, des choses qui sont à notre image, qui sont l'extension de nos sentiments, de nos valeurs? Et puis, je l'ai déjà dit, il faut relever la pression extérieure qui pesait sur Israël, là, en raison de cette pratique quasi universelle par ailleurs des cultes polythéistes. Le paganisme était généralisé, tout le monde le fait, entre guillemets, tout le monde le faisait. Souvent, il était lié à des échanges politiques et militaires également, à la vie économique. Refuser de s'y soumettre, c'était se mettre en marge et parfois se rendre insupportable aux yeux des autres. Et donc, on peut comprendre, sans approuver, mais on peut comprendre qu'il pouvait être tentant de mettre de l'eau dans son vin et de diluer l'exclusivité du culte de l'Éternel dans le syncrétisme ambiant. Et je crains qu'il ne nous arrive parfois d'être face à la même tentation. Et il faut reconnaître que ce type de danger, essayer de mélanger le message de l'Évangile à d'autres messages, il guette l'Église, les églises aujourd'hui. Voici ce qu'on lit en première page du site internet d'une église protestante parisienne, qui ne fait pas partie de notre association, je vous rassure. L'église X est une association pour la culture morale, religieuse et sociale, ainsi que pour l'entente fraternelle. Elle est ouverte à toute personne, jusque-là tout va bien, qui espère trouver un encouragement à sa vie intérieure. Sa base est l'Évangile dans ce qu'il a d'éternel, de commun à tous les âges et à tous les hommes, de pacifiant et de libérateur. On pourrait résumer toutes nos aspirations dans ces mots. Ici, on enseigne l'humanité. Nous n'excluons aucune forme d'esprit religieux. Nous demandons l'unité non pas à l'uniformité d'un credo, mais au libre consentement des bonnes volontés orientées vers le même but. Autrement dit, si on traduit un peu, peu importe ce que vous croyez, si vous croyez quelque chose, nous vous encouragerons à continuer à le croire, à condition que vous soyez gentils. C'est à peu près ce que dit ce texte. Et pourtant, Jésus affirme à plusieurs reprises que son message s'adresse à tous. Personne ne peut se dispenser de Jésus-Christ. Et c'est un message vital, un message qui comporte un enjeu de vie et de mort spirituel. Et sous couvert d'esprit, de tolérance, d'ouverture d'esprit, nous montrons un manque d'amour envers nos contemporains lorsque nous leur laissons entendre qu'ils peuvent sans problème vivre sans Jésus-Christ. Mais revenons à notre texte. Le second livre des rois commence au chapitre 1 en nous racontant un épisode pas très glorieux. Il Alors, il n'y a pas que moi qui suis maladroit. Akasias, le pauvre, subit un accident domestique. Il tombe par le treillis de sa chambre à l'étage et se blesse gravement. Et il finit par succomber à cette blessure. Après avoir tenté de chercher son salut auprès des prophètes de Baal. Et c'est dans ce chapitre 1 qu'on découvre en quelque sorte le dernier acte prophétique du prophète Élie, qui affirme à Akasias qu'il ne se relèvera pas de cette blessure, justement parce qu'il ne s'est pas tourné vers le Seigneur pour sa délivrance. Akasias n'aura donc régné que 2 ans, et après sa mort, c'est son fils Joram qui devient roi, et ça nous amène au texte lu tout à l'heure. Le verdict du narrateur des rois sur Joram est globalement négatif. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais non pas toutefois comme son père et sa mère. Donc, c'est un peu plus mitigé. Il était, semble-t-il, un peu mi-figue, mi-raisin. Il réagit un peu contre le culte de Baal, peut-être en supprimant certains hauts lieux, nous dit le texte, certains lieux de culte. Mais il ne s'attaque pas à la tendance idolâtre générale qui règne dans le pays depuis plusieurs années. Et la suite de l'épisode nous montre combien Joram a une spiritualité sélective. Et dans une moindre mesure, c'est le cas aussi de son collègue de Juda, Josaphat. Et donc c'est notre deuxième point, une spiritualité sélective. Au verset 4, on apprend que le roi de Moab, un roi vassal du roi d'Israël, lui payait non pas une taxe carbone, mais une taxe bélier, en quelque sorte. Alors il faut reconnaître que le poids fiscal qui pesait sur lui était considérable. Il lui fallait livrer 100 000 jeunes béliers et 100 000 béliers adultes. Il fallait quand même les trouver. Et Mécha, peu après la mort du roi Akab, a donc mis son bonnet rouge, en quelque sorte, et s'est révolté en refusant de livrer ses béliers. C'est sans doute comme ça qu'il faut comprendre sa révolte. Et ça ne fait pas du tout rire le roi Joram, qui va aller chercher de l'aide auprès du roi de Juda, Josaphat, qui est partant pour mener avec lui une sorte d'expédition punitive. Sans doute que Juda bénéficiait aussi, d'une façon ou d'une autre, de la laine des béliers. On peut supposer que c'est pour cela qu'ils s'y sont joints sans aucun problème. C'est frappant de voir que Israël et Juda, deux royaumes divisés, étaient incapables de s'unir pour adorer le Dieu de leur père. Mais quand il s'agissait d'aller récupérer les béliers, d'aller servir un intérêt économique commun, là, apparemment pas de problème. Joram et Akasias vont recruter en chemin le roi d'Édom, verset 9, un allié. Et donc ils font route ensemble avec leurs armées jusqu'à Moab. Ça correspondrait aujourd'hui à une petite partie de la Jordanie sur la rive est de la mer Morte. Et quand on lit le texte, on voit que dans tout ce processus de décision, le Dieu qui est le véritable roi d'Israël n'est pas mentionné, semble complètement absent de leur prise de décision. On peut se demander si nous sommes tentés, nous aussi, parfois, de mettre en œuvre des projets qui, sur le papier, paraissent très bien, mais en oubliant de consulter le Seigneur. Ça vaut la peine de se poser la question dans nos vies individuelles, dans notre vie d'église également. En tout cas, pour Joram et Akasias, les choses tournent mal. Les trois rois et leurs troupes se perdent dans le désert. Je ne sais pas si ça vous rappelle un peu quelque chose. Se perdre dans le désert, il y a sans doute un écho ici de la période de l'Exode, dans le désert du Sinaï. Et comme d'ailleurs les Israélites du temps de Moïse, ils en veulent à Dieu. Et Joram en particulier, verset 10, « Ah, le Seigneur a appelé ces trois rois pour les livrer à Moab. » Voilà, c'est fini. Et dans un sens, il y a une certaine lucidité. Il reconnaît que le Seigneur désapprouve leur action. Une réaction assez typique, il me semble. Combien de fois nous ne nous rappelons de Dieu que lorsque les choses commencent à mal tourner? Nous aussi, nous avons trop souvent une spiritualité sélective. Joram n'a jamais vraiment tenu compte de Dieu dans ses décisions, mais quand ça va mal, ah là, c'est la faute de Dieu. Il se tourne vers le Seigneur. Peut-être que nous aussi, parfois, nous sommes prêts à croire que Dieu est souverain dans certains cas, quand on a besoin de lui. Quand les choses vont mal et on se dit, mais Dieu est souverain, alors comment ça se fait que ça arrive? Et on a raison de dire que Dieu est souverain. Mais le risque vient lorsque on pense, lorsque tout va bien, que finalement, il n'est peut-être pas si souverain que ça. Et quand, au minimum, il n'est pas si impliqué dans le reste de notre vie. Ma vie d'église, ma lecture de la Bible, ça oui, bien sûr, c'est le domaine de Dieu, je les lui soumets avec joie. Bon, maintenant, ma vie professionnelle, est-ce que vraiment Dieu s'y intéresse? Ma vie sentimentale, familiale, sexuelle, mes loisirs, Ça me regarde quand même. Quel rapport avec Dieu ? Je caricature un peu, bien sûr. Mais parfois, je pense que nous ne sommes pas si loin de cette façon de penser. Mais par contre, le jour où les choses vont mal, où on passe par l'épreuve, n'avons-nous pas souvent le réflexe de commencer par invoquer la souveraineté de Dieu et lui demander pourquoi il permet telle épreuve ? Et si nous sommes prêts à prier Dieu en cas de besoin, ce qui est une bonne chose, et c'est légitime de demander pourquoi dans certains cas. Mais si nous sommes prêts à reconnaître qu'il est souverain sur nos vies dans ces cas-là, alors comment ne pas voir qu'il est aussi souverain sur tous les autres aspects de notre vie ? Le roi Joram en veut à Dieu, mais c'est son collègue judéen Josaphat qui nous est décrit plus positivement, globalement, dans le livre des rois. C'est lui qui a le bon réflexe. Il comprend que si Dieu est vraiment souverain, alors plutôt que de se plaindre de lui, il est préférable de s'adresser à lui, de chercher sa volonté. Et c'est là qu'intervient Élisée, jeune successeur d'Élie. On ne sait pas trop pourquoi il était là. Est-ce qu'il était en quelque sorte aumônier aux armées ? Est-ce que parce que c'était un homme en âge de se battre, il se trouvait là parmi les troupes ? On ne sait pas trop, mais en tout cas, il est là. Et il ne mâche pas ses mots lorsqu'il arrive devant le roi Joram. Pas très sympa. Verset 13, « Qu'ai-je à faire avec toi ? Va trouver les prophètes de ton père et les prophètes de ta mère. » Autrement dit, les prophètes de Baal. Pas très sympa, mais mérité. Jusqu'ici, Joram a toujours fait confiance à Baal. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il se tourne vers le Seigneur ? Mais Joram a un peu de lucidité quand même. Il n'est pas aussi impie que ses parents et grands-parents. Et il insiste tout de même. Il semble avoir compris qu'il a besoin d'une intervention du Seigneur. Et c'est là que nous arrivons au dénouement très surprenant. Troisième point. Dans cette situation, tout laisse penser que les choses vont mal se terminer pour nos trois rois et leurs troupes. Mais les surprises commencent. Élisée, on l'a vu, il a été très sévère à l'égard du roi Joram, mais il accepte quand même de transmettre une parole de la part du Seigneur. Alors son introduction quand même, elle reste sévère. Verset 14, « Si je n'avais de la considération pour Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderais même pas. » Élisée va accorder à Joram une faveur imméritée au nom de son estime pour Josaphat. Et soit dit en passant, on a là comme une petite version en miniature de l'Évangile. Dieu nous aime, il prend soin de nous et il nous a pardonné, non pas parce que nous l'avions mérité, mais parce qu'il a décidé de nous faire bénéficier de son amour et de sa fidélité envers son Fils, Jésus-Christ, qui se tient à nos côtés, qui est notre avocat devant le Père, lui qu'il a envoyé pour être notre représentant devant lui. Et c'est parce que Jésus-Christ fait tout le plaisir de Dieu, parce que Christ n'a jamais désobéi envers lui, que cette justice est mise à notre compte. C'est l'Évangile qui nous est présenté avec force dans le Nouveau Testament. Dieu peut nous regarder malgré notre péché, parce qu'il a choisi de nous associer pour toujours à son Fils Jésus-Christ, qui, contrairement à nous, a toujours été obéissant. Je ferme cette petite parenthèse. On revient à Élisée qui accepte de prophétiser, mais il demande qu'on fasse venir un musicien. Alors ça peut paraître un peu cocasse, mais il arrivait que les prophètes du Seigneur prophétisent accompagnés de musique. Il y a peut-être là une des racines de nos chants d'assemblée. On parle de la parole de Dieu en musique, ça s'imprime peut-être plus facilement dans nos esprits parfois. Et donc on fait venir le Stéphane tantôt de l'époque, le leader du groupe de louanges, son équivalent, et il se met à accompagner les paroles du prophète Élisée, qui va se faire porte-parole de Dieu. Alors que va dire le Seigneur ? C'est quand même ça qui nous intéresse. Et là, à quoi est-ce qu'on s'attend ? On s'attend à une parole dure, une parole de jugement. Les trois rois qui, sans consulter une seule fois le Seigneur, sont allés simplement pour un intérêt économique, sont allés attaquer comme ça Moab. Et là, énorme surprise. Verset 16, « Ainsi parle le Seigneur, creusez dans cette oued, faites des fosses et encore des fosses, car ainsi parle le Seigneur, vous ne verrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie, mais cette oued se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bêtes. » Donc première réponse de Dieu, « Je vais donner à boire aux soldats et aux troupeaux. » Encore un écho, sans doute, de ce que Dieu a fait dans le désert autrefois. Puis le Seigneur poursuit, verset 18, « Mais cela est peu de choses aux yeux du Seigneur, il vous livrera Moab. » au moment où on s'y attend le moins, Dieu décide de faire grâce, d'accorder une faveur totalement imméritée. Non seulement il apporte la délivrance à son peuple en lui permettant de boire, mais il va au-delà en lui accordant le succès dans son entreprise, la victoire sur Moab. Et à vrai dire, la Bible est pleine de tels exemples de grâce. On pense au roi David, qui a commis entre autres l'adultère et un meurtre par conspiration. Et le Seigneur lui fait prendre conscience de la terrible gravité de sa faute, mais le pardonne et lui maintient sa fidélité et ses promesses. On pense bien plus tard à l'apôtre Pierre, qui a renié Jésus publiquement et trois fois, et qui quelques jours ou peut-être semaines plus tard au maximum, se voit confier par le même Jésus le soin de ses disciples. On pense à Saul de Tarse, persécuteur cruel, implacable de l'Église, qui, sur le chemin de Damas, va rencontrer le Seigneur qu'il détestait, qu'il persécutait, et va recevoir de Dieu la mission d'aller auprès des nations annoncer Jésus-Christ. Et puis on pense à chacun d'entre nous, nos histoires sont différentes, mais tous d'une façon ou d'une autre, et pour certains c'est peut-être encore le cas, nous étions rebelles à Dieu, pour certains peut-être très activement, pour d'autres de façon plus passive et subtile, mais tous nous avons d'une façon ou d'une autre considéré comme méprisable son évangile et estimé que nous pouvions faire très bien sans lui. Et pourtant, en Jésus-Christ, Dieu nous offre un plein pardon et une vie nouvelle avec lui. Notre texte se termine en deux temps. D'abord, Dieu accomplit de manière surprenante sa promesse de donner la victoire à Israël sur Moab. Au lever du soleil, les soldats de Moab confondent le reflet du soleil levant sur l'eau donc que Dieu a déjà miraculeusement amenée, donc déjà ça les surprend de voir de l'eau, et puis ils voient le reflet du soleil, et donc qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Que les Israélites, les Judéens et les Édomites se sont entretués. Et que donc il en reste peut-être quelques-uns, mais en gros il suffit de partir à l'assaut et tout ira bien, il ne reste plus personne. Grave erreur, les Israélites sont en embuscade et les Moabites sont mis en déroute. Drôle d'histoire, enfin surprenante. Outre que Dieu peut faire ce qu'il veut dans sa manière de montrer sa souveraineté, on peut relever qu'en fait l'histoire humaine est pleine d'histoires assez bizarres. Récemment, j'ai lu un article qui expliquait que la décision américaine de larguer des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki a été précipitée en partie à cause d'un problème de traduction. Sûrement pas le seul facteur, mais en partie. On demandait au gouvernement japonais de capituler sans condition, et les autorités japonaises ont répondu en utilisant un mot, une expression ambiguë, qui, selon le contexte, peut vouloir dire « sans commentaire », on refuse de commenter, de répondre, ou « nous traitons avec mépris cette demande. » On traite avec mépris. Et il semble que leur intention était plutôt de dire sans commentaire pour avoir un peu plus de temps pour décider. Mais les autorités américaines ont compris que leur demande avait été traitée avec mépris. On connaît la suite. Au-delà des coïncidences de l'histoire, simple erreur de traduction, des coïncidences dont l'histoire est pleine, Dieu montre sa souveraineté dans l'épisode de 2 Rois 3 et il accorde la victoire aux Israélites malgré leur complet manque de mérite dans cet épisode. Joram était un mauvais roi et pourtant Dieu lui a accordé la victoire. Josaphat, un peu meilleur sans doute, mais c'était bien mal embarqué. Dieu lui a pourtant accordé la victoire. L'histoire se termine de manière particulièrement sombre. Dans un geste désespéré, pour obtenir la faveur de ses idoles, le roi de Moab commet un acte terrifiant en sacrifiant son fils. De fait, cet acte va tellement horrifier les Israélites qu'ils préfèrent se retirer, sans doute sans même avoir obtenu ce qu'ils étaient venus chercher pour commencer, c'est-à-dire les béliers. Donc tout ça pour ça, comme souvent dans l'histoire militaire, là encore. On peut se demander que penser de tout ça et de cette fin particulièrement sombre pour les Moabites. D'abord, on a là les conséquences terribles de l'idolâtrie. Lorsqu'on adore des idoles qui sont une projection de nos sentiments en tant qu'hommes et femmes pécheurs, on va chercher, comme on fait pour les hommes, à les amadouer, à les manipuler, à les impressionner. Et comme ce sont des dieux, des pseudo-dieux bien sûr, et qu'on pense qu'ils déterminent notre destin, eh bien, il y a la tentation de la surenchère, faire toujours plus pour les impressionner. Et ça peut mener à quelque chose d'aussi terrifiant que ce qu'on voit dans ce texte, un sacrifice humain. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de Jésus-Christ, n'est pas un Dieu qu'on peut manipuler par des sacrifices. Il est un Dieu dont dont la grâce se reçoit les mains ouvertes. Un Dieu personnel qui nous invite à le connaître, à l'aimer, et en qui nous pouvons toujours placer une pleine confiance. Et ce n'est pas pour rien que ce Dieu-là a préféré, en Jésus-Christ, son Fils, subir lui-même la peine que méritent nos fautes, accomplir lui-même le seul sacrifice qui pouvait expier nos péchés. Parce qu'il sait qu'en tant qu'hommes et femmes pécheurs, nos tentatives de lui plaire par nos propres moyens sont vouées à l'échec, et parfois à des choses terribles, comme dans notre texte. Jésus-Christ a accompli le sacrifice parfait, il l'a accompli volontairement, de son plein gré, pour nous libérer de ce qui nous tenait éloignés de Dieu. Et il nous invite à venir vers lui en hommes et femmes responsables, en conscience, sachant qu'en payant volontairement et librement ce terrible prix à la croix, Dieu a prouvé l'ampleur stupéfiante de son amour pour nous. L'Évangile nous libère des sacrifices, de toute vaine tentative de justifier notre vie devant Dieu ou devant d'autres hommes. L'apôtre Pierre, au début de sa seconde lettre, écrit ainsi : « Sa divine puissance, celle de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre force. » De Pierre 1:3. Même ce que nous donnons à Dieu, entre guillemets, notre amour, notre temps, nos ressources, notre foi, c'est lui qui nous l'avait donné pour commencer. Ce n'est pas en puisant en nous-mêmes que nous plairons à Dieu. C'est pas, nous ne donnons pas à Dieu des choses qu'il découvre tout d'un coup et qui lui sont étrangères. Nous lui donnons ce que lui-même nous a donné, en puisant en lui. Parce que nous sommes aimés par le Dieu Tout-Puissant, nous pouvons aimer. Et nous n'avons plus besoin de nous débattre pour essayer de nous faire aimer. Parce que nous sommes pardonnés par le Dieu Tout-Puissant, nous n'avons plus besoin de chercher à l'impressionner sans cesse par nos œuvres, qui seront toujours déficientes. Il nous a pardonnés et ça nous libère aussi pour nous pardonner les uns aux autres. Parce que nous avons trouvé le sens de la vie par la connaissance de celui qui nous a créés, nous n'avons plus besoin de chercher inlassablement à donner du sens à notre vie. En conclusion, dans ce texte, nous découvrons un Dieu qui n'est jamais dépassé par nos événements, même quand ils sont très mal partis et même quand nous avons très mal commencé. À chaque instant, il nous invite à lui abandonner le contrôle de notre vie, à le laisser nous diriger, lui qui nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Et je voudrais terminer par une image. J'imagine que beaucoup ici ont un GPS. Ce que je trouve assez formidable avec un GPS, c'est qu'à n'importe quel moment, à condition qu'il marche, à n'importe quel moment, il peut vous remettre sur le bon chemin. Autrement dit, même quand vous êtes complètement perdu, le GPS va prendre comme point de départ là où vous êtes et non pas là où vous devriez être. Et ça, je trouve ça formidable. Et si j'ose cette comparaison, Dieu fonctionne un peu comme ça. Il n'a pas peur de venir nous chercher dans nos égarements les plus profonds. Il calculera toujours un nouvel itinéraire. On n'est jamais trop perdu pour l'appeler à l'aide. Et il n'est jamais trop loin pour venir nous chercher. Mais il nous demande, cette fois, d'arrêter d'essayer de nous trouver par nous-mêmes et de le suivre lui. Amen.